Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, la guerre entre le Hamas et Israël, quels sont les éléments importants ce matin? D'abord, à quel moment le convoi humanitaire va pouvoir se déplacer sur le territoire de la bande de Gaza? Depuis hier, on répète, on laisse entendre que ça va se passer aujourd'hui. On a appris dans les dernières minutes que même si les palettes sont dans les camions, si tout est prêt à être livré, qu'il y a une vingtaine de camions qui sont déjà là avec les conducteurs prêts à se rendre dans Gaza, il y a encore des enjeux politiques, militaires qui sont pas réglés, ce qui veut dire que ça irait probablement à demain. Et je rappelle que 20 camions, là, c'est une fraction de ce qui est nécessaire pour pouvoir fournir évidemment les médicaments, la nourriture, l'eau pour les gens de Gaza. Puis rappelons-nous ce déplacement de la population qui a commencé la semaine dernière, c'est 1 million de personnes qui ont quitté, qui se sont littéralement entassés. Et on le voit là, des gens qui sont inquiets. Pourquoi? Parce que ça bombarde au nord et au sud. Et là, ils se disent, est-ce qu'on a été coincés? Parmi les dommages de cette guerre, on signale entre autres une église qui a été touchée. Il y aurait également quelques personnes de décédées. Mais donc, pour ce qui est de l'aide humanitaire, là, c'est nettement insuffisant. On sait que les camions ont été inspectés, on voulait pas que des armes soient cachées, que la mission humanitaire soit la seule et que ça soit fait dans les règles et en sécurité, mais ça tarde évidemment à venir. Deuxième élément important, les troupes israéliennes sont massées tout près de la frontière et il y a un général qui a dit, et ça a été repris d'ailleurs par le politique, qu'on a le feu vert. On attend le feu vert des autorités politiques. Militairement, là, ils sont prêts à entrer dans Gaza pour l'opération élimination du Hamas, qui va prendre des mois et des mois. C'est un conflit sanglant. Jean-François Lépine sera avec nous tantôt. Il l'a expliqué. Évidemment, le Hamas qui connaît le territoire, les corridors, les cachettes qui existent. Bref, c'est une guerre urbaine qui va coûter cher en termes de vie, et ça pourrait être déclenché peut-être au cours de la fin de semaine. Et puis le président Joe Biden, qui hier soir, dans son discours, a réitéré son appui à Israël et à l'Ukraine, et il a jumelé les deux conflits en disant que dans les deux cas, on fait face à des leaders tyranniques. On pense au Hamas, on pense à Vladimir Poutine, et va demander au Congrès américain une aide d'urgence pour financer l'aide pour Israël et pour l'Ukraine. Alors, c'est le bilan, mais c'est sûr que la priorité, c'est évidemment de pouvoir aider, nourrir, faire boire, donner des médicaments, parce que c'est une catastrophe humanitaire qui s'amplifie de jour en jour, et ça, on le voit régulièrement. Puis j'attire votre attention ce matin. C'est un article que j'ai lu dans le Globe and Mail concernant une petite municipalité en Israël qui s'appelle Abu Ghosh, qui est dans la périphérie de Jérusalem. Il faut se rappeler qu'en Israël, 20% environ de la population est musulmane ou d'origine arabe. Et dans cette petite municipalité, on retrouve essentiellement des gens qui sont des Libanais et ce qu'on appelle des Israéliens arabes. Certains sont palestiniens. Et il y a une roquette qui est tombée dans ce village. Un village qui a toujours été épargné par les tirs. Alors, est-ce que c'est un accident? Est-ce qu'on visait Jérusalem, par exemple? Quoi qu'il en soit, il y a un jeune homme qui est mort. Et vous avez ces Arabes israéliens qui sont solidaires avec les Juifs et qui se disent eux-mêmes victimes du Hamas parce qu'ils passent pour des traîtres, puis aussi victimes souvent des colons juifs qui les accusent d'occuper le territoire puis qui voudraient les expulser du pays. Mais quand vous lisez ça, ça vous rappelle la capacité, parce que la ville est merveilleuse. Vous voyez les images. Je vais aller voir sur YouTube. C'est un relais gastronomique important. Il y a de l'histoire. Il y a également, on dit que c'est par exemple le paradis du houmous. Bref, il y a cette touche humaine qui est encore présente malgré le conflit, malgré les pertes de vie. Il y a cette solidarité entre ces gens qui habitent le même village, la même municipalité. Puis on le voit, ce sont toujours les civils qui payent le prix de cette confrontation parce que sur le plan politique, il n'y a pas beaucoup de changements. Chez nous maintenant, on va recevoir ce matin Fadi Daguerre et deux recrues du SPVM qui ont participé à l'expérience d'immersion. Il y a d'ailleurs Katia Gagnon dans la presse qui en parle ce matin. Alors, des gens qui viennent d'horizons différents, certains de la banlieue, d'autres qui arrivent d'un autre corps policier. Et ça veut dire quoi, ça? C'est on vous montre Montréal, le poste 21, dans le cœur de la ville, puis vous allez savoir ce que ça veut dire, répondre aux appels un après l'autre. Alors, c'est la réalité de la rue, c'est-à-dire l'itinérance, les problèmes de santé mentale, la violence, les problèmes aussi de violence conjugale, bref, de problèmes économiques. Vous pouvez mettre tous les problèmes, là, puis ça fait une grosse marmite au centre-ville de Montréal. Ce qui fait que ces policiers sont allés rencontrer des groupes communautaires qui soutiennent les gens dans la rue. Ils sont allés rencontrer également des experts, des intervenants sociaux, puis d'autres policiers, puis on les forme pour comprendre cette réalité afin d'intervenir de façon adéquate. C'est toujours la même chose, c'est l'équilibre entre aider, être présent, soutenir, puis en même temps une forme de répression qui est nécessaire. Et je pense qu'il y a un policier qui a dit aux plus jeunes, c'est pas parce que votre collègue de voiture a 10 ans d'expérience de plus que vous qu'il a nécessairement raison, qu'il y a des policiers d'expérience qui ont peut-être pas les comportements qui sont adéquats. Puisqu'on est dans les dossiers montréalais, la ville de Montréal, dit-on dans la presse, a décidé de déneiger elle-même les rues d'une partie du centre-ville et de Rosemont. Pourquoi? Parce que les appels d'offres étaient trop élevés. Et on a dit, ben ça n'a pas de bon sens, le plus bas soumissionnaire pour le contrat du centre-ville voulait faire le travail pour 15 millions. Et dans Rosemont, pour le transport de la neige, on était rendu à 1 million. Ce qui fait que ce sont les cols bleus de la ville qui vont faire le nettoyage, qui vont ramasser la neige au centre-ville. Et il faut dire qu'ils font déjà en partie sur le territoire, parce que quand vous regardez la répartition, on sait déjà là, que la ville de Montréal, c'est grosso modo 50 % du déneigement fait par les cols bleus, puis 50 % par le privé. Là, ils ont acheté de l'équipement. Et là, t'as le déneigeur qui a pas eu le contrat qui dit « J'ai hâte de les voir aller. Le centre-ville, c'est compliqué en maudit à déneiger parce que le travail va être bien fait. » Alors, disons que c'est un beau défi dans la cour des cols bleus. Je veux revenir sur la liste d'attente en chirurgie. Je vais essayer d'être le plus clair possible ce matin parce que nous nous faisons remplir collectivement par le mammouth de la santé. Il y avait en date du 9 septembre 163 463 Québécois qui attendaient une chirurgie. Et c'était en augmentation. Il y a actuellement deux façons de se faire opérer au Québec, à l'hôpital bien sûr, et il y a des ententes, des corridors qui existent entre le secteur public vers des centres médicaux spécialisés, privés, mais je le rappelle, facture assumée par le gouvernement. Le patient ne paye pas. Et le patient, je le répète souvent, mais je vais le faire encore ce matin, se fout de savoir est-ce que c'est privé, est-ce que c'est public. Il veut simplement se faire opérer. 75 % des blocs opératoires fonctionnent au Québec. Il y a 25 % donc de sous-utilisation. Il y a des patients qui débarquent à l'hôpital parce qu'on les a appelés, puis ils retournent chez eux sans avoir eu la chirurgie parce que l'horaire ne le permet pas, parce qu'il y a eu un cas qui a été plus long, puis qu'on ne peut pas payer de temps supplémentaire. Bref, on retourne les gens à la maison, puis on leur dit, on va vous donner un autre rendez-vous. Ce que vous savez peut-être pas, puis ce que le ministère de la Santé souhaite cacher, c'est qu'il y a des centres médicaux spécialisés qui sont sous-utilisés. les médecins peuvent pas opérer au public. Ils sont prêts à aller, à vous amener comme patient dans ce centre privé et finalement pouvoir opérer le plus de gens possible. Un chirurgien dans la vie, ça veut opérer. Et actuellement, au Québec, on l'empêche d'opérer. Au public, on lui donne pas assez de priorité opératoire. Puis, on écœure ceux et celles qui tentent d'aller vers le privé. Je vais parler ce matin avec Dr. Daniel Lapointe, qui est anesthésiologiste et président d'un groupe qui s'appelle Opéra MD, qui ont des ententes avec le gouvernement. Lui, chaque mois, là, puis il y a le personnel, les médecins sont là, mais la machine du mammouth fait en sorte que ces salles d'opération ne sont pas utilisées à pleine capacité. Il se perd du temps. Et ça, c'est à cause du ministère de la Santé. On va appeler un chat, là. Si vous attendez, si vous pourrissez sur une liste d'attente, en bonne partie, la solution existe. De deux choses l'une. Ou pour des raisons idéologiques, et c'est une option à ne pas négliger, on empêche des chirurgies ou privées, ou c'est pour une raison budgétaire, fait que toi, attends, Québec veut pas payer, ou c'est de l'incompétence bureaucratique, tout simplement. Mais il faut que les Québécois sachent qu'il y a des ressources qui existent en termes de médecins, d'infirmières, d'aménagements, de blocs opératoires pour pouvoir vous opérer et que c'est sous-utilisé dans le réseau et qu'au privé, ils peuvent en faire plus, ils veulent en faire plus, mais le gouvernement, les fameux CIS puis les CIUS, sont pas capables. Certains vont même dire, vous savez, on n'a pas de liste d'attente. Y a-t-il quelqu'un qui va croire qu'au Québec, il n'y a pas un hôpital où il n'y a pas un médecin, qui n'y a pas une liste d'attente et qui voudrait être capable d'opérer? Puis dans le cas de cette clinique de Québec, ils font de l'orthopédie. Ça, ce sont des cas qui traînent, vous le savez. Ils font également des chirurgies générales, ORL, des reconstructions mammaires après cancer du sein, etc., etc. Mais les médecins sont là, puis ils regardent le bloc opératoire, puis on peut pas opérer. Et là, on parle de plusieurs jours par mois où l'État est pas capable de trouver des patients, supposément. Puis on est supposé avaler le coulet du gouvernement là-dessus. Deuxième dossier important aussi, celui des courtiers immobiliers. Ce sont des snoreaux dans certains cas. Parce que depuis la nouvelle loi sur le courtage, t'as pas le droit comme courtier de représenter le vendeur et l'acheteur. Il me semble que ça allait sous le sens qu'il y a un conflit d'intérêts. C'est comme représentant du vendeur, tu sais comment est ton client, dans quelles conditions il va. Puis toi, tu veux aussi représenter l'acheteur, ça n'a pas de bon sens. T'sais, c'est comme deux avocats, un avocat qui ferait, ben, je vais faire la défense, puis je vais faire la poursuite. Ça n'a aucun sens. Alors, donc, Québec a changé la loi, mais, il y a des courtiers qui décident quand même de la contourner. Et là, leur organisme d'autorégulation serre la vis. Alors, comment ils font ça? Ben, d'abord, ils rappellent que vous n'avez pas le droit, puis là, ils ont trouvé les stratagèmes. Et là, c'est pas deux cas isolés, là. Ça a l'air, c'est une pratique assez sérieuse pour faire un rappel, disons, marteau. Alors, des exemples sont donnés, notamment quand vous avez une maison à vendre, sur la pancarte à l'extérieur, vous avez un numéro de téléphone d'un courtier. Mais c'est pas le courtier qui représente le vendeur, c'est un courtier qui veut vous représenter, vous, comme acheteur. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent en équipe. Pour la même bannière, par exemple. Ça, ben, ils ont pas le droit de faire ça. Puis il faut leur rappeler que c'est une pratique qui est pas acceptable. Même chose pour ce qui est des visites libres. Ils vont en équipe, puis ils vont ramasser les visiteurs en espérant de pouvoir les représenter comme acheteurs. On va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Pour ce qui est de l'économie, c'est intéressant de voir ce matin dans le Journal de Montréal que les entreprises de Montréal et de Québec sont les plus taxées au pays, là. Et les chiffres sont quand même assez hallucinants. À Montréal, pour ce qui est du commercial, c'est 34 $ de taxes là, par 1000 $ d'évaluation. À Québec, c'est 36. À Toronto, c'est 21 $. Et même Vancouver, c'est autour de 10 $. J'arrondis un peu les chiffres. Pourquoi à Montréal, ça serait trois fois plus cher? Ça, je vous parle des entreprises commerciales. Et déjà, on le sait, là, la facture est salée. Il y a, disons, des coûts qui s'y ajoutent de main-d'œuvre depuis la fin de la pandémie. Fait que c'est sûr qu'être commerçant à Montréal, ce n'est pas facile. Puis je vous parle même pas des obstacles causés par les chantiers, les détours, les fermetures, les excavations, qui sont évidemment nombreuses. Je veux vous parler aussi du rapport de la vérificatrice générale du Canada. Il y a deux, trois choses, encore une fois, hallucinantes. On a eu notre dose cette semaine avec le fameux dossier de la Société d'assurance automobile. Mais là, on apprend d'abord que quand vous prenez toutes les applications du gouvernement fédéral, là, il y a seulement 38 % des applications qui sont dans un bon état. Je veux dire, 38 % là. Pratiquement tout est à refaire. On apprend aussi que des dossiers à l'immigration peuvent être sur les tablettes jusqu'à 4 ans. Si vous êtes un réfugié, attachez votre tuque, ça va être long. Et si vous êtes de l'Afrique, c'est encore plus long que certains pays parce que ça, disons que les dossiers s'accumulent également. Alors, espèce d'incapacité du fédéral de livrer des services quand même correctement. Puis je vais finir ce matin en vous racontant une histoire. C'est une histoire terrible, je vous préviens, là. Mais c'est un peu la peur de quiconque prend le métro. Cette semaine, on est à la station située près de la 5e avenue et de la 53e rue à New York. Il y a une femme qui est là sur le quai et qui attend. Et soudainement, puis on l'avait vu, l'individu en question, qui parlait seul, qui, comme on voit souvent ici à Montréal, s'est dirigé vers elle, l'a frappé, l'a poussé, sa tête a frappé un wagon du métro, elle est tombée sur les rails, elle a survécu, elle est dans un état critique à l'hôpital. Peu de temps avant, le même homme a fracturé d'un coup de poing la mâchoire d'un autre passager du métro de New York. Et au hasard, là, il n'y a aucun lien entre l'agresseur et les deux victimes. L'agresseur a été arrêté. Il s'appelle Sabir Jones. Il a 39 ans. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Si on résume sa vie, c'est un sans-abri, consommateur de drogue, puis il a des problèmes de santé mentale. Il n'y en a pas tous les jours des cas comme ça à New York. Puis quand il y en a un, c'est sûr que ça fait plus la manchette. Je pense que depuis le début de l'année, il y a une quinzaine de personnes comme ça qui ont été frappées par des itinérants, puis qui ont été blessées assez sérieusement. Et à un point tel qu'on rappelle aux gens de pas se tenir sur le bord, de garder une bonne distance, justement pour éviter d'être poussé par quelqu'un, un malade qui sort comme ça de l'ombre. Et je le sais que l'idée, c'est pas de faire peur au monde, l'idée, c'est juste de rappeler ce conseil de prudence, parce que, qu'on aime ça ou pas, la réalité, c'est que dans le métro de Montréal, dans les rues de Montréal, on croise, on fréquente, on va parler de ça aussi avec nos amis du SPVM tantôt, des gens qui ne vont pas bien, qui sont agités, puis des gens qui peuvent devenir violents. Parfois, ils sont drôles, parfois, ils sont pas dangereux pantoute, mais dans d'autres cas, disons qu'ils ont des comportements qui peuvent intimider, voire faire peur.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On le sait tous, la liste d'attente en chirurgie est interminable. Les derniers chiffres, au début septembre, faisaient état de 163 463 Québécois qui attendaient une chirurgie. Il y a deux façons d'être opéré, dans le système public, donc à l'hôpital, ou encore grâce à des ententes entre le ministère de la Santé et des centres médicaux spécialisés. Ce qui fait que, comme patient, vous êtes traité dans ce qu'on appelle un centre privé, mais la facture est assumée par l'État. La question qu'on doit se poser, est-ce que les ressources sont utilisées au maximum? Autrement dit, est-ce qu'il y a des pertes de temps, des pertes en productivité, des blocs opératoires qui pourraient être utilisés avec le personnel, mais qui ne le sont pas? Si vous êtes sur une liste d'attente, je pense que vous avez le droit de savoir pourquoi vous êtes là puis pourquoi vous êtes peut-être là depuis longtemps. Avec nous pour en parler, Dr Daniel Lapointe, qui est président de Opéra MD, qui est un centre médical spécialisé à Québec. Dr Lapointe, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Expliquez-nous un peu comment vous fonctionnez comme centre médical privé, l'entente, le genre d'entente que vous avez avec le gouvernement pour traiter des patients.
Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est parce que quand on utilise le mot privé, il faut parfois le nuancer que les gens le comprennent bien. Là. On est un centre privé dans le sens que c'est pour propriété du gouvernement, mais on est un centre qui permet juste aux médecins qui participent à la RAMQ là, de travailler. Donc oui, ça nous permet de paraffer des ententes. Les ententes sont signées avec les hôpitaux. Donc, ce sont les hôpitaux qui ont le mandat du ministère de signer des ententes avec nous, puis d'envoyer des patients afin d'aider là, à baisser les attentes.
Bon, moi, je le regarde d'une perspective globale. Le ministre Christian Dubé disait, on veut accélérer cette façon de faire parce que avec la pandémie, il y a eu plus de cas, on a fait des ententes. Est-ce que un ou des hôpitaux vous envoient des patients, justement, pour être soignés parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources dans l'hôpital?
Oui, ben en effet, on a des ententes. Ces ententes-là, on essayait de les paraffer avant la pandémie, mais c'était un peu difficile parce que, à mon avis, les délais d'attente étaient déjà élevés, mais au niveau du système, il y avait une certaine résistance à aller vers le privé, mais c'est vrai que la pandémie a fait tomber les barrières, donc ce qui fait qu'on a des ententes de service avec les deux principaux hôpitaux de la Rive-Nord ici à Québec, là, qui sont le CHU, qui est un regroupement là, de cinq hôpitaux, et l'IUCPQ, qui est anciennement l'hôpital Laval, là, pour qui on fait de la chirurgie bariatrique.
Okay.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les chirurgiens de l'hôpital qui viennent faire les interventions chez nous, comme s'ils étaient à l'hôpital, les patients viennent chez nous, n'ont pas à payer, et puis c'est couvert par leur carte RAMQ, un peu comme quand on va voir notre médecin de famille dans son cabinet au coin de la rue, puis c'est comme si on allait au CLSC ou à l'hôpital voir son médecin.
OK. Vous faites quel type de chirurgie?
On fait principalement, je revisais ça là, en vue de notre discussion, là, puis c'est un peu plus de 50% d'orthopédie qu'on fait. Ensuite, c'est la chirurgie générale qui vient en deuxième, là, incluant la chirurgie bariatrique là, pour les pertes de poids là, de l'ICPQ, mais aussi toutes sortes de hernies, des chirurgies, somme toute, on s'entend, là, on fait pas de résection de bout d'intestin relié au cancer, on fait pas ça. Mais on fait plus des chirurgies de surface, des choses comme ça. Puis en orthopédie, ben là, ça va genoux, épaules, mains, chevilles, on a une grande variété. Puis dans une moindre mesure, on fait aussi des interventions un peu en ORL, en gynécologie, donc il y a une grande variété là, de ce qu'on peut faire pour les hôpitaux.
Je prends l'orthopédie, là, vous me corrigerez, mais pour avoir discuté avec l'Association des orthopédistes, ce sont des médecins spécialistes qui passent souvent deuxième puis troisième dans les priorités opératoires parce que c'est pas une question vitale, c'est une question de qualité de vie, mais ça peut attendre.
Oui, c'est certain que, surtout pendant la pandémie, quand on était au minimum des ressources disponibles, là, on se concentrait sur les patients avec cancer, les patients avec maladies instables là, qui menaçaient la survie. Puis c'est vrai que les patients qui avaient des problèmes, là, qui, comme vous dites, là, qui menaçaient pas la vie, ont passé un petit peu en deuxième. Mais c'est là qu'on est intervenu. Le ministère a poussé ces ententes-là, justement, pour que ces patients-là soient pas complètement oubliés, okay. Qu'ils puissent au moins avoir une voie de sortie.
Vous faites combien de chirurgies dans une année?
On est en croissance, je vous dirais, là, parce que c'est certain que le contexte est propice au développement de notre industrie. Je vous dirais que depuis deux ans là, de notre entente avec le CHU Québec, j'ai révisé les chiffres, on est à 3500 patients qui ont été opérés dans le cadre de cette entente-là. On parle de presque 500 en bariatrie. Puis l'autre chose qu'on fait depuis des années, c'est de la dentisterie pédiatrique. Là. Des jeunes autistes, des jeunes avec des TDAH qui ont besoin d'être endormis pour traiter des caries, des abcès, des choses, des soins dentaires comme ça. Ça, on est rendu à plusieurs millions, on est rendu en fond à peu près à 1000 par année. Au okay. Total, là, on traite 2 à 3 000 patients du système public par année.
Pourriez-vous en prendre plus?
Depuis peu, oui, on pourrait en prendre plus parce qu'on a ouvert un deuxième site qui nous permet de dévier un petit peu. On a un petit peu de chirurgie privée, je ne le cacherai pas, on fait un peu de chirurgie esthétique, c'est ce qui nous a permis d'ouvrir là, il y a 6 ans. Puis on a dévié un peu cette chirurgie privée-là vers le deuxième centre qui ouvre des salles pour les hôpitaux. On pourrait en faire plus présentement.
OK, mais quand vous me dites on pourrait en faire plus, par exemple, par mois, vous pourriez en faire combien de plus que ce que vous faites actuellement?
Ben écoutez, je vais vous donner un exemple. En septembre, vous êtes au courant probablement, il y a eu une nouvelle vague là, d'ententes de services qui ont été signées avec les CMS comme nous. En septembre, on a commencé avec le CHU Québec, la nouvelle entente. Ça coïncidait avec l'ouverture de notre centre, ce qui fait qu'on a réussi à faire 40 salles d'opération à peu près avec le CHU Québec en septembre. Puis par contre, là, en octobre, ils ont eu, je pense qu'ils se sont fait mettre un holà par comment dire, une espèce de frein, je vous dirais, parce que ça dépassait le volume qui était prévu dans nos ententes. Donc, on est en train de travailler là-dessus avec le CHU Québec, là, qui sont d'excellents partenaires pour ramener ça. Mais présentement, on en fait à peu près une vingtaine de journées par mois. Donc, juste pour dire, on peut facilement rajouter une vingtaine de journées par mois à raison de 5 à 7 patients. Donc, on parle de 100 à 150 patients de plus par mois qui pourraient être présents.
OK. Mais moi, là, ce qui m'achale, moi, vous dire, dans tout ça, là, c'est que vous avez l'espace, les blocs opératoires, le personnel, c'est des médecins du réseau public qui peuvent pas opérer comme ils veulent à l'hôpital et qui sont prêts à aller opérer chez vous. Puis il y a des patients qui attendent pour être opérés. Si l'arrimage se fait pas, il y a quelqu'un qui décide de pas vous envoyer plus de patients. Ou bien c'est par idéologie parce que vous êtes le privé ou parce qu'ils veulent pas dépenser. Il y a une raison qui fait pourquoi tel patient est toujours sur la liste.
Écoutez, il y a eu de l'idéologie au début, quand c'était le moment de signer les premières ententes, il y a eu de la résistance. Ça prend pas beaucoup de personnes dans un système pour créer de la résistance, hein, vous savez. Alors, il y en a eu au début. Je pense qu'on est passé ça. Je pense que le concept est digéré, intégré et fait partie maintenant de la façon de penser du système. Mais on est pris avec des règles là, qui empêchent la flexibilité, je vous dirais. Je pense que c'est ça le problème. Puis les directions d'hôpitaux sont pris avec ces règles-là. Je pense qu'ils voudraient utiliser davantage nos ressources. Ils doivent répondre aux règles qui leur sont imposées.
Par qui?
Ben, c'est une bonne question. Je suis pas un expert des rouages, là. Je comprends que ce sont des règles d'attribution des contrats qui causent ça, entre autres. J'ai parlé récemment au directeur général du Québec. Ils m'ont vraiment expliqué que c'est ça. S'ils dépassent de plus que 10% ce qui a été prévu à notre entente, ben là, ça prend des dérogations. On a une situation quand même qui nous aide à Québec parce qu'on est le seul CMS qui peut répondre à ces appels d'offres-là. Donc, au moins, il n'y a pas de situation de concurrence. Mais s'il fallait qu'en plus, il y ait une situation de concurrence, ben là, il ne pourrait pas, sans nouvel appel d'offres, augmenter le nombre de patients qui viennent chez nous.
OK, mais...
On ne construit pas un viaduc, on traite des patients. Fait que c'est plate qu'il y ait des plafonds à ces volumes-là. Tu sais.
Non, mais ce que je veux dire, là, mettez-vous à la place du patient, là, puis je donnais l'exemple au président de la Fédération des médecins spécialistes cette semaine. C'est un monsieur qui a besoin d'une opération à une main, il écrit pas, là. Il est pas capable depuis à peu près un an et demi qu'il attend. Et là, il se dit, mais pourquoi on m'opère pas? Puis là, c'est un cas théorique, là. Vous pouvez l'opérer. Vous avez le personnel, le médecin pour le faire. Vous me dites que votre hôpital sera bien prêt à vous l'envoyer, mais quelque part dans la machine, il y a quelqu'un qui dit, oh, on peut pas dépasser le budget, là, fait qu'il va attendre encore.
Écoutez, on est en train de développer ça avec les hôpitaux. Je veux certainement pas jeter le blâme à personne parce que tout le monde travaille fort, mais oui.
Non, je sais, vous voulez pas perdre vos ententes avec le. Mais maintenant, il faut appeler un chat aussi, là.
Oui, mais écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. À chaque fois qu'il y a une salle qui est inoccupée dans nos blocs, puis surtout qu'on a les infirmières, là, nous, on travaille beaucoup avec des infirmières retraitées qui sont sorties du système, qui ont même souvent donné leur nom puis qui n'ont pas été retenu là, pour continuer à 2-3 jours semaine, ben nous, on engage ces infirmières-là. Donc, on pénalise pas le système, on vient pas vider le système. Avec ce personnel-là qui est super qualifié, super expérimenté, on pourrait faire plus de chirurgie. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois que je vois une salle vide, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur pour les patients. Puis les chirurgiens aussi, quand ils voient aussi une salle vide, eux aussi sont un peu éberlués.
Mais c'est quand même extraordinaire. On n'a pas le personnel pour faire fonctionner à plein régime les blocs opératoires. On annule des patients qui sont déjà à l'hôpital parce qu'il y a eu un cas plus long, puis à 4 heures, il n'est pas question d'avoir du temps supplémentaire où le monde ne veut pas rester. Vous avez personnel, équipement, vous pourriez en prendre plus, mais l'État, je vais dire ça comme ça, là, l'État ne vous envoie pas plus de patients, même si ce sont des patients qui sont sur une liste d'attente depuis des mois et des mois.
Ben, je pense qu'il faut juste que les moyens soient donnés là, aux administrateurs de le faire. Là. Assouplir, je pense qu'il faut assouplir un peu les façons de faire. Que le but soit toujours de justement de pas laisser de côté une priorité qui est inoccupée. Ça, là-dessus, moi, je demanderai pas. Puis je lâcherai pas le morceau tant qu'on n'aura pas ramené les listes d'attente à 3 mois. Si je trouve que ce serait plus un délai acceptable que les 6 mois ou 1 an qu'on voit actuellement.
Parce que vous, on vous en donne pas autant que vous souhaitez en avoir puis que vous êtes capable de livrer.
Ben, pendant la pandémie, on manquait de place, là. Comme je vous dis avant.
Oui, mais maintenant, là.
On manquait de place. Mais maintenant, on pourrait, là, ouvrir les vannes puis en faire plus. On pourrait.
OK. Merci, Dr. Lapointe. Bonne journée.
Ben, merci. Bonne
au
journée
au revoir. Dr. Daniel Lapointe est le président d'Opéra MD. C'est un centre médical privé spécialisé. Puis je pense que c'est important, là, qu'on mette les choses claires sur la place publique, là. Parce qu'à chaque fois, là, on nous présente ça comme des chiffres. Là. D'abord, 163 000 personnes, c'est du vrai monde. Puis il y a des gens là-dessus là qui attendent parce que c'est pas une opération vitale. Puis on a des cas d'orthopédie. Puis c'est pas acceptable. Et moi, je pense, je comprends le docteur Lapointe pour vouloir peut-être mettre le feu, là, mais je pense qu'il y a une question d'idéologie là-dedans, puis il y a une question de budget. Et il y a deux questions fondamentales. La première, si tu me fais venir à l'hôpital pour m'opérer, arrange-toi pour m'opérer que la journée que tu m'as fait venir. Puis là, là, je le sais, vous allez me sortir, oui, des patients qui annulent, des gens qui décident d'aller en vacances. Je comprends tout ça, là. Mais la personne qui a pris congé, qui est à jeun, puis qui à 3h30 se fait dire « Va-t'en chez vous, là », je m'excuse, c'est pas acceptable. Fait que arrangez-vous, jouez dans les horaires, faites quelque chose, mais traitez le monde. Deuxièmement, si le gouvernement est sérieux, là, si on n'est pas dans une partie de bullshit, là, si t'es pas capable de m'opérer dans ton hôpital, dans le réseau public, dans un délai raisonnable, visiblement, il y a du monde qui sont capables de le faire ailleurs. Ramasse la facture. Tu peux pas me l'offrir, je paye pour ça, ben paye. Je pense que ce sont les deux options. Et là, on n'est pas dans le débat de la médecine privée, publique. On regarde les ressources. Y a-tu moyen de procéder de même? Parce que là, là, on nous raconte toutes sortes d'histoires de spin, puis le politique veut, mais la machine veut pas. Il y a des fonds-fonds qui résistent. Il y a des fonds-fonds qui torpillent des ententes. Il y a des fonds-fonds qui... C'est correct, là. Puis là, on se prépare à une agence de santé au Québec. Ça va être plus efficace avec une agence de santé ou si on va juste changer le porteur de ballon? Parce qu'il y a quelqu'un qui empêche des gens de se faire opérer. La vraie vie au Québec, là, il y a des gens au ministère de la Santé qui empêchent des Québécois d'être opérés dans un délai raisonnable.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Parlons maintenant de la campagne de vaccination qui s'est amorcée au Québec. Vaccination COVID. Il semble qu'il y a des rendez-vous qui ont été annulés, des rendez-vous en pharmacie, parce que le ministère de la Santé n'a pas livré les doses qui devaient l'être, donc des doses promises. Il y a des patients qui reçoivent un courriel de leur pharmacien en disant que le ministère n'a pas été en mesure de nous envoyer la quantité promise de vaccins contre la COVID cette semaine. Benoît Morin, le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Benoît, bonjour.
Bonjour, Paul.
Bon, est-ce que c'est vrai là qu'il y a un certain nombre de rendez-vous d'annulés parce qu'on n'a pas les vaccins?
Oui, il y a eu à peu près 4% des rendez-vous là qui ont été donnés, qui ont été annulés dans certaines régions là, parce que les pharmaciens avaient ouvert des plages de vaccination pour la COVID-19 et pour l'influenza. Les gens cette année veulent avoir les deux vaccins en même temps au même rendez-vous, et on a suffisamment de vaccins influenza, mais on a eu quelques vaccins COVID en début de campagne. Là, je vais vous donner un chiffre, à peu près 100 000, mais à la grandeur du Québec, c'est pas tant de doses que ça. Donc, il a fallu fermer des rendez-vous, attendre de recevoir le stock supplémentaire, et c'est en train de rentrer là ces jours-ci. La semaine prochaine, on devrait en recevoir un peu plus. Il devrait y avoir des plages qui s'ouvrent aussi. Donc, Clic Santé, c'est dynamique là. C'est pas parce que vous avez pas vu de rendez-vous aujourd'hui pour le mois d'octobre qu'il n'y en aura pas d'ouvert la semaine prochaine. Donc, faut retourner. Mais ça a compliqué un peu les opérations. Il a fallu s'organiser autrement, donc fermer des plages, en réouvrir, puis y aller plus lentement dans le début de la campagne.
OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a manqué de vaccins comme ça? C'est les quantités promises sont pas arrivées? Et c'est quoi la raison?
Bon, c'est sûr que c'est des vaccins qui ont, ce sont des nouveaux vaccins donc qui ont été approuvés. Ça fait pas si longtemps que ça. Tout le monde les a commandés en même temps, tout le monde les veut en même temps. Il y a eu des petits retards, notamment sur le vaccin Pfizer. Ça a causé une perturbation dans la chaîne d'approvisionnement. Et ça, c'est pour les pharmacies, mais c'est aussi pour les centres de vaccination. Si vous regardez sur Clic Santé, là, les rendez-vous sont pas mal tous pour le mois de novembre, le mois de décembre, parce qu'on attend tous après les vaccins. Mais c'est des délais qui sont dus au fait que c'est un nouveau vaccin. Ça fait pas si longtemps qu'on a recommandé une vaccination après 6 mois pour les gens qui sont à risque, mais qui est ouvert à l'ensemble de la population. Et l'engouement est là, hein, c'est ça la surprise aussi, c'est que tout le monde, beaucoup de gens veulent être vaccinés, ils veulent l'être rapidement, mais disons qu'il n'y a pas d'urgence non plus. Là.
Non.
Il va y avoir des vaccins disponibles, ça va rentrer. Je disais qu'on avait reçu 100 000, il est possible qu'à la fin de la semaine prochaine, on ait 500 000, donc des quantités suffisantes pour ouvrir des plages suffisante pour l'ensemble de la population qui va être vaccinée.
Autrement dit, si on n'a pas de rendez-vous, il faut simplement constamment aller voir ce qui s'ajoute, les nouvelles disponibilités.
Oui, y aller de temps en temps, regarder sur Clic Santé, okay. Regarder l'option des deux vaccins combinés et vous allez finir par trouver un rendez-vous qui n'est pas trop loin.
Merci Benoît, bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Benoît Morin, le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Ce matin, nous recevons des recrues du SPVM qui sont passées par le programme Immersion. Donc, des jeunes qui ont fait le choix d'être policiers, policières à Montréal. Je les présente dans deux instants et le chef est avec nous ce matin. Fadi Daguerre, d'abord, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcand.
Adèle Coursol, bonjour.
Bonjour.
Et Charlie Malenfant, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Peut-être, Fadi Daguerre, rappeler les grandes lignes du programme. Là. Ils ont fait quoi cet été?
Mais les grandes lignes, ça a été, il faut dire qu'il y a 3 semaines d'immersion, mais plus 3 semaines d'induction technique, plus des scénarios extrêmement difficiles. 5 semaines d'immersion dans la communauté, puis 15 semaines dans les postes de quartier. Principalement, c'est 8, les premières 3 semaines et 5 semaines sont de l'immersion technique et émotionnelle. C'était vraiment les faire exposer à des scénarios difficiles dans lesquels ils vont vivre tout prochainement comme futurs policiers, mais aussi aller à la rencontre de toutes les populations, voir c'est quoi la misère, c'est quoi les difficultés au niveau de la santé mentale, c'est quoi les communautés culturelles. Vraiment sentir un peu le pouls montréalais, parce qu'on voulait leur donner des coffres à outils pour qu'ils puissent mieux travailler plus tard. Donc, ils ont été exposés à des situations où ça les a mis hors de leur zone de confort. C'est les déstabiliser dans le fictif, on va dire même entre guillemets, avant que ça devienne du réel.
OK. Adèle Coursol, d'abord, première question, pourquoi vous avez voulu devenir policière? Puis la deuxième qui vient avec, pourquoi à Montréal?
D'abord et avant tout, contrairement à plusieurs de mes collègues, moi, c'était pas un rêve d'enfance. Moi, c'est arrivé au secondaire. J'ai eu la chance d'aller faire un Cobra. Donc, c'est un stage d'un jour avec un duo de policiers. Puis, je suis revenue à la maison. Puis, mes parents, ils me décrivent ça, ils m'en parlent encore. Je suis revenue avec les étoiles dans les yeux. J'ai tout de suite accroché au métier de policier. Puis, ça m'allume vraiment beaucoup. L'aspect de pouvoir venir aider les gens puis de pouvoir appliquer la justice aussi. Là, ces deux aspects-là, ça m'attire vraiment du métier de policier.
Et à Montréal, parce que c'est plus complexe qu'ailleurs, Montréal.
Ben, Montréal, c'est le parfait milieu entre les deux. Il y a beaucoup de répression, mais il y a aussi il y a un gros aspect humain avec la ville de Montréal. Il y a beaucoup d'appels sociaux où qu'on doit venir en aide avec les gens. Puis pour moi, c'est ça qui m'attire okay. À Montréal. Là.
Charlie Malenfant, pourquoi?
Pour ma part, je viens d'une grande famille, 5 enfants, élevé sur une ferme laitière. Les valeurs familiales puis les valeurs d'entraide ont toujours été vraiment fortes. Puis je pense que c'est des valeurs qu'on retrouve au sein de la police, puis la ville de Montréal, c'est un gros service, il y a beaucoup d'opportunités, un peu comme ma collègue a dit, un bel apport entre le communautaire puis la répression, c'était toutes des choses qui me plaisaient au service.
OK, vous dites, je viens du bas du fleuve,
ouais.
Un environnement agricole, ferme laitière et tout ça, là. Quand oui, vous débarquez sur Milton, quand vous allez faire un tour à la mission du père, la maison du père, là, vous avez dû avoir un léger choc.
Oui, assurément. Durant les quatre dernières années, j'ai vécu à Québec. Fait que j'ai eu une petite gradation, si on peut.
Une mise en bouche.
Si je peux me permettre, exactement. Mais c'est sûr que j'ai vécu l'immersion à fond.
OK. Donnez-moi un exemple de ce qui vous a frappé. Là, vous dites ça, je m'attendais pas à ça. Là, ça c'est venu me chercher, ça m'a déstabilisé.
J'en parlais plus tôt ce matin, justement, avec ma collègue. J'ai eu la chance d'aller avec un intervenant de milieu qu'on appelle, un intervenant qui se promène au centre-ville pour créer des liens avec la communauté. Puis j'ai eu la chance de parler avec une jeune femme qui était victime de proxénétisme. Elle était sous l'emprise d'un proxénète. Puis tout au long là, de l'intervention avec l'intervenante, on en est arrivé à la sortir du milieu dans lequel elle était. On a trouvé une place en milieu d'hébergement pour l'accompagner tout au long de tout ça. Puis ça m'a déstabilisé de voir que c'est pas juste dans les films, c'est pas juste chez le voisin, il y en a partout. Puis de juste passer une journée au centre-ville, que ça m'a permis d'en voir puis de le voir concrètement.
Là, je lisais ce matin le texte de Katia Gagnon, le fameux poste 21. Là, c'est un appel après l'autre. Puis ce que vous avez vu de pire aujourd'hui, ça va être pire demain. Là, vous êtes conscient que cette misère humaine-là, ça va être votre lot quotidien. Là.
Absolument. Puis le fait d'être en mesure de faire immersion, ça nous permet, comme j'expliquais un peu avec nos partenaires hier, avec les ressources et tout ça, on a été élevés dans la soie. Moi, personnellement, c'est ça que ça m'a fait constater. J'ai 21 ans, je sors de l'école de police, je sors de ma technique policière. J'arrive là, dans ce milieu-là, ça me permet de vivre en 5 semaines des choses qui auraient pu s'étendre sur plusieurs années. Fait que j'ai été face à de la violence conjugale, j'ai été face à de l'itinérance, j'ai été face à tout plein de situations qui m'ont confrontée. Puis à ce moment-là, ben, j'ai pu avoir des réalisations sur moi-même que ça m'aurait pu prendre plusieurs semaines avant d'avoir plusieurs années.
Là, on va se dire les vraies choses. Mm-hmm. Vous avez dû faire des erreurs. Vous avez dû dire ça là-dessus avec le recul. J'ai pas eu le bon réflexe, le bon comportement. J'ai tel geste que j'aurais posé. Quelqu'un, je sais pas moi, qui est agressif. Quelqu'un, il y a eu des simulations. Vous avez dû en faire des erreurs.
Ben c'est sûr, puis ça fait partie du métier de policier. On peut pas nier ça. Mais je pense qu'immersion, ça permet d'éviter ce genre d'erreur-là, de pouvoir voir le milieu. Par exemple, l'itinérance à même l'organisme, alors que généralement, on va rester à l'extérieur, ben on voit une autre réalité qu'on n'est pas capable de voir quand on est policier, quand on est dans l'autopatrouille. Fait que je pense que immersion, oui, on fait des erreurs, mais immersion, ça nous permet de limiter nos erreurs. C'est sûr qu'on va en faire, on peut pas le nier, mais ça nous permet de les limiter.
OK. Est-ce qu'il y a un événement sur la rue, vous dites, c'est probablement la plus grande leçon que j'ai reçue. Si je suis confronté à nouveau à ça, là je sais exactement quoi faire. Ou encore à partir d'une simulation. Est-ce que vous avez un événement, là?
Ben, je peux pas dire que ça m'a fait prendre conscience. Je sais pas si je vais savoir exactement quoi faire, mais ça m'a fait prendre conscience. Je suis allée dans une maison d'hébergement où j'ai été confrontée à une femme et ses deux enfants qui sont venus. Dans le fond, ils venaient juste d'arriver à la maison d'hébergement. Puis ça m'a permis de voir une autre réalité. Le fait de voir la dame arriver, ses vêtements se font mettre dans une laveuse, dans une sécheuse pour éviter les punaises. Ils arrivent, sont seulement en pyjama. Puis ils se font présenter un nouveau milieu avec d'autres femmes qui vivent à peu près la même chose qu'eux. Puis là, ils sont mis à nu, puis il leur reste quasiment plus rien, ils recommencent à zéro. Ben voir cette réalité-là de cette façon-là, ben ça me permet de, quand je vais intervenir auprès de ces femmes-là en violence conjugale ou dans d'autres contextes, ben je vais garder ça en tête quand je vais leur parler, puis ça, je vais pouvoir prendre plus de temps avec eux puis leur expliquer plus.
Oui, j'entends mes auditeurs dire, ouais, mais là, vous êtes des policiers, policières, vous êtes pas juste des intervenants sociaux. On comprend là cette misère-là puis cette réalité-là. Mais vous avez un job de police à faire aussi.
Oui, assurément, mais je pense que la mentalité de police évolue au courant des années, puis notre travail évolue par le fait même. Puis un peu comme ma collègue disait, vous disiez un exemple concret tantôt, là.
Ouais.
Tu sais, oui, dans notre travail de policier, on a des... l'organisation veut certaines tâches, certains points, mais au final, Immersion Morale nous a vraiment permis de voir que on n'ira pas sur un appel de violence conjugale, on va aller sur un appel avec une personne qui vit une situation de violence conjugale. Puis je pense que c'est le gros point dans tout ça, c'est justement, vous disiez, est-ce que vous savez qu'est-ce que vous devez faire? Bien, c'est du cas par cas. Faut pas se dire que en violence conjugale, je sais quoi faire. C'est qu'avec chaque personne, je vais devoir prendre le temps de comprendre quels sont ses besoins.
OK, vous êtes des jeunes policiers, policières, là. Je lisais ce matin quelqu'un qui vous disait, je pense que c'est le directeur qui a dit ça en plus. Si vous êtes avec quelqu'un, un partenaire qui a 10 ans ou 15 ans d'expérience, c'est pas parce qu'il a plus d'expérience que vous que sa méthode est nécessairement la bonne.
Absolument. C'est sûr et certain. Puis, qu'est-ce que je peux répondre à ça? C'est la mentalité.
Si Fadi Daguerre vous dit fais ça de même, ça veut pas dire qu'il a raison. C'est
mais
ça que ça veut dire.
Le point, c'est les mentalités changent. Le genre de police change également. Puis le type d'appel change également. Donc, la police qui était bonne il y a 15 ans n'est pas nécessairement encore d'actualité. Donc, c'est important de parler. Notre expérience, on va le partager avec les autres policiers. Puis ça va permettre d'avoir un échange. Puis de les aider et de nous aider également.
Là, je vais parler à Fadi Daguerre. Mm-hmm. Comment vous voyez le mariage des cultures, là, des gens qui sont au service depuis 10, 12, 15 ans, puis 18 ans, puis qui vont travailler avec Adèle puis Charlie?
Ben, ceux qu'ils ont à peu près... C'est une très bonne question, parce qu'il y a les chocs culturels, mais il y a les chocs générationnels. Le policier ou la policière qui a 40, 45 ans, probablement, il a des enfants, s'il a des enfants de 15, 20 ans, donc pratiquement de l'âge de Charlie, de Adèle, il est déjà confronté personnellement dans sa maison avec ses propres enfants. Donc, je me dis, il y a un choc, je vais être franc avec vous, sûrement, tout à l'heure, j'avais
des policiers qui sont, disons, plus portés sur une intervention.
Il y a toujours, vous savez, il y a cette culture-là qui est encore présente, pas partout, mais encore présente, où le jeune arrive dans le véhicule, puis le gars ou la fille date, il dit, écoute ben, je vais te montrer la vraie police, c'est terminé ce que tu as appris.
Regarde ce que je vais faire, là, puis
fais de même. Exactement. Mais c'est exactement ce que je leur ai dit dans la rencontre à la cérémonie. Pas question. Ça se peut qu'à 80-90%, il a raison. Go, suis ton partenaire. Si tu sens qu'il y a une voix en toi, ta petite voix te dit ça c'est pas bon, c'est dans tes valeurs profondes, tu suis personne, tu suis ta voix. Ni Fadi Daguerre, ni personne d'autre, tu suis ta voix. Ça prend du courage. Ça prend beaucoup de courage. Mais c'est important qu'ils le fassent. Parce que quand ils sont dans une conviction profonde que c'est pas correct, ne te trahis pas, ne te trahis jamais. C'est exactement l'exemple que j'aurais donné. Donc, c'est pas facile. Puis j'ai vécu moi-même des expériences avec des policiers de plus de date, mais la grande majorité, ils sont excellents. Mais quand il y a des moments qui ça va pas, c'est important, extrêmement important, qu'ils se tiennent debout.
Merci à tous les trois d'être venus ce matin.
Merci.
Fadi Daguerre, qui est le directeur du SPVM. Adèle Corsol, qui est maintenant policière au SPVM. Et Charlie Malenfant. On va aller retrouver Marc, un survol de ce qui se passe sur le réseau. Maintenant, dès le 9 novembre prochain, les courtiers immobiliers qui travaillent en équipe devront choisir. Vous êtes dans quel camp, celui de l'acheteur ou du vendeur? Parce que même s'il y a eu des changements législatifs, il y en a qui ont ajusté, disons, la pratique pour contourner un peu le système. Maître Caroline Champagne est avec nous. Elle est la vice-présidente à l'organisme d'auto-réglementation du courtage immobilier du Québec. Maître Champagne, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que la loi disait clairement, là, qui a été adoptée il y a à peu près quoi, ça? Un an et demi environ, là? C'était quoi le changement majeur?
Le changement majeur que le législateur a amené, c'est le fait que il est maintenant interdit pour un courtier de représenter à la fois le vendeur et l'acheteur, donc d'avoir un contrat de courtage vente avec un vendeur et un contrat de courtage achat avec un acheteur dans le cadre de la même transaction. Alors ça, c'est devenu interdit. L'autre chose qui est devenue obligatoire, c'est le fait d'avoir un contrat de courtage écrit pour pouvoir représenter les intérêts d'une partie. Alors pour représenter un acheteur, on doit avoir un contrat de courtage achat.
Ça, c'était dans la loi. Et c'est dans la loi encore actuellement. Ce que vous avez quoi observé dans la pratique, et là, on parle pas d'anecdotes ou de cas hyper isolés, là, c'est qu'il y en a qui contournaient le système.
Ben oui, effectivement, mais je dois rappeler quand même que sur environ 100 000 transactions au Québec, là, la grande majorité se déroule très bien. Alors ça, c'est une chose à établir. Par contre, dans les cas où est-ce que ça se déroule un peu moins bien, où on veut prévenir que ça se déroule moins bien, mais c'est pour ça qu'on vient préciser, dans le fond, les règles qui sont applicables, puis qui sont applicables aux équipes. Alors, les équipes sont toujours permises, là. Alors, on n'est pas en train de dire qu'on ne peut plus travailler en équipe. Toutefois, c'est qu'à partir du moment où est-ce qu'un membre d'une équipe signe un contrat de courtage vente, par exemple, ben, tous les membres de l'équipe vont porter le même chapeau. Le chapeau qui est celui du courtier du vendeur. Alors, on ne peut pas avoir un membre de l'équipe qui va ensuite aller représenter les intérêts d'un acheteur.
L'exemple, vous donnez, là, puis vous me corrigerez, là, une maison, c'est une visite libre. Puis vous avez le courtier qui représente le vendeur, puis vous auriez quoi, quelqu'un de son équipe qui joue du côté des acheteurs potentiels qui se présentent, puis les deux travaillent après ça sur la même transaction.
Bien, en fait, c'est ça, ce qu'on peut observer, c'est qu'on va avoir un courtier de la même équipe que celui du courtier du vendeur qui va être présent lors de la visite libre, et puis va donner des informations, va faire visiter aux acheteurs potentiels, puis advenant le cas où est-ce qu'il y a un acheteur qui veut, ou des acheteurs qui veulent présenter une promesse d'achat, bien, ils vont s'orienter vers ce courtier-là, puis ils vont parfois avoir l'impression d'être représenté par cette personne.
Parce que chaque côté a des informations précises, oui, sur le vendeur, par exemple, pourquoi il vend, dans quel contexte, pressé, pas pressé, divorce, pas divorce. L'acheteur, lui, veut rapidement. Tu peux pas avoir les deux qui travaillent ensemble sur une seule transaction.
Exactement, parce que le courtier a l'obligation de protéger les intérêts de son client d'abord et avant tout, puis il doit aller chercher toute l'information pertinente à la transaction au sujet de cette personne-là, comme vous l'avez mentionné. Donc, ce sont des informations qui sont confidentielles, personnelles, stratégiques. Alors, il peut pas faire abstraction de ces informations-là qu'il a dans sa tête, puis ensuite aller voir l'autre partie puis dire, ah ben tiens, je te représente. Il doit être loyal à l'égard de son client, okay, avec lequel il a signé un contrat.
Donner des trucs aux auditeurs. Là, comment je fais pour savoir que le courtier avec qui je fais affaire est pas aussi, ou quelqu'un de son équipe, membre, représente aussi donc le vendeur? Là, est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce qu'il y a des preuves à demander?
Mais d'abord et avant tout, c'est au courtier d'aviser les acheteurs du fait qu'ils ne les représentent pas, puis qu'ils ont le droit d'être représentés par un autre courtier. Alors ça, c'est une obligation du courtier, du vendeur, ou de celui qui est membre de l'équipe, hein, d'aviser l'acheteur. Regarde, moi, je te représente pas.
Je touche pas à ça.
Je représente les intérêts du vendeur. Tu peux aller te faire représenter par un autre courtier. Je te le recommande même. Puis si la personne choisit de ne pas être représentée, c'est correct. L'acheteur peut ne pas être représenté comme le vendeur pourrait ne pas être représenté, mais il a cette information-là. Puis à partir de ce moment-là, il va savoir qu'il a le droit à ce qu'on appelle le traitement équitable. C'est ce qui est prévu dans la loi. Traitement équitable, ça veut dire que l'acheteur va obtenir des informations objectives, complètes, exactes, vérifiable de la part du courtier, mais il ne pourra pas obtenir des conseils. Il ne pourra pas obtenir des conseils, par exemple, sur le prix à offrir.
Il ne pourrait pas me dire, par exemple, si tu, là, il est pressé de vendre, fais telle offre, puis d'après moi, ça va passer.
C'est exactement ce qu'on veut contrer en précisant les règles. Parce que là, ici, on se trouverait en situation de conflit d'intérêts, puis en plus de ça, il y aurait un bris, un manquement à son obligation de protéger les informations.
Est-ce que les amendes sont dissuasives?
Bien, les amendes sont celles qui sont imposées par le comité de discipline, qui est un comité indépendant de l'OACQ. Alors, il peut imposer des sanctions qui sont de nature pécuniaire, ou il peut y avoir des suspensions de permis, même la révocation de permis dans les cas les plus graves.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Maître Caroline Champagne, qui est vice-présidente à l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.